Radio Spirale. Moins évasives et traumatisantes que les interventions militaires, les opérations policières prennent de plus en plus d'importance dans les stratégies internationales de maintien de la paix. Pour en discuter, la librairie Olivieri recevait les spécialistes Samuel Tanner, Benoît Dupont, Antoine Mégy et Frédéric Mérand. La rencontre était animée par Jocelyn Coulon.
Je suis directeur des presses de l'Université de Montréal. Mon nom est Antoine Delbusseau. Je voulais signaler que ce livre est publié dans la collection Régulation sociale dirigée par le professeur Stéphane Le Monongois. Et je suis très honoré d'avoir comme président de la séance de ce soir M. Jocelyn Coulon, qui est directeur des réseaux francophones de maintien de la paix. Alors, donc, je suis chargé tout simplement de lui céder la parole, ce que je fais avec plaisir.
Merci Antoine pour cette courte présentation. Merci aussi à tous d'être présents à cette causerie sur un aspect très particulier des opérations de maintien de la paix, c'est-à-dire le rôle de la police. Habituellement, quand on parle des opérations de paix dans les conférences, on aborde le mécanisme lui-même, qu'est-ce que les opérations de paix font au Congo, en Côte d'Ivoire, en Haïti. On met parfois l'accent sur la composante militaire parce que c'est celle que l'on voit le plus souvent dans les médias. C'est celle dont on parle aussi même dans les études spécialisées. Mais on oublie trop souvent, surtout depuis une dizaine d'années, que la police civile occupe une place de plus en plus importante dans ces opérations de maintien de la paix, soit comme composante essentielle, parce qu'il y a des opérations de police mises sur pied par l'Union européenne ou d'autres organisations internationales, soit que cette composante policière s'accroche, fait corps avec les composantes militaires, mais aussi civiles. Ce qu'il faut remarquer depuis à peu près une quinzaine d'années, lorsqu'on regarde le cheminement, le développement des opérations de maintien de la paix, c'est que la composante militaire est de plus en plus restreinte et la composante civile de plus en plus présente. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus seulement patrouiller une ligne de cessez-le-feu entre deux belligérants. En fait, on intervient au cœur même des États pour les reconstruire. Or, on a besoin, bien sûr, des militaires pour assurer la sécurité, mais on a de plus en plus besoin des policiers civils et des composantes civiles pour reconstruire les États, réhabiliter les institutions politiques, juridiques ou sociales. Donc, de se retrouver ici ce soir autour d'un livre en français sur la composante de police civile, ça me semble être un événement à souligner. Moi, je suis dans ce domaine des opérations de paix depuis 20 ans. J'ai commencé, bien sûr, par suivre ces questions-là du côté anglo-saxon parce que la plupart de la littérature sur les opérations de paix était rédigée en anglais. Et c'est un peu pour ça que j'ai fondé à l'Université de Montréal en 2005 le réseau francophone de recherche sur les opérations de paix. C'est pour mettre de l'avant la production, les chercheurs, la formation en maintien de la paix, mais en français. Et ce que l'on constate, en tout cas, depuis 10-15 ans, ce n'est pas nécessairement l'action particulière de notre réseau, mais une action concertée de centres de recherche de l'Organisation internationale de la francophonie ou de d'autres gouvernements francophones, c'est qu'il y a de plus en plus d'événements et de publications en français. Et il y a une bonne raison à ça. C'est que depuis 10 ans, les opérations de maintien de la paix et la majorité des casques bleus et des policiers civils se retrouvent sur des territoires francophones. Haïti, Congo, Côte d'Ivoire, Burundi, en son temps le Tchad et la République centrafricaine, le Liban, le Sahara occidental. Ce qui veut dire que les Nations unies, pour la première fois dans leur histoire, la première fois depuis la création des opérations de paix en 1948-49, sont au confluent d'une problématique particulière, c'est que 60 à 70 % de leur personnel, qui parle bien sûr toutes les langues, sont concentrés dans 5 ou 6 territoires francophones. Et ça, ça pose toutes sortes de problèmes qui sont d'ailleurs parfois soulevés dans ce livre ce soir. Donc, très rapidement, je vous présente les conférenciers par ordre d'intervention. Je leur donnerai un maximum de 10 minutes pour faire leur présentation, puisque quand même, il y aura vos questions et il y aura surtout un cocktail après pour nous permettre de mieux fraterniser. Alors, dans un premier temps, Samuel Tanner, à ma droite, professeur à l'École de criminologie à l'Université de Montréal et un des auteurs, co-auteurs de ce livre, intitulé d'ailleurs « Maintenir la paix en zone de conflit ». Je suis persuadé que la librairie en a quelques exemplaires, j'espère en tout cas, pour les auteurs. À ma gauche, Benoît Dupont, qui est aussi professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, qui interviendra en deuxième. À sa gauche, Antoine Mégy, maître de conférence à l'Université de Rouen et aussi co-auteur de ce livre. Enfin, pour jeter un regard critique sur l'ensemble des contributions dans ce livre, Frédéric Mérand, professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal et aussi chercheur et auteur de nombreuses contributions, articles et livres sur la paix et la sécurité, en particulier en Europe. Donc, sans plus tarder, je demanderai à Samuel Tanner de s'exprimer.
Merci beaucoup, Jocelyn. Alors, je vais juste vous donner un peu des éléments de contextualisation du livre et de l'esprit dans lequel il est né. Alors, depuis les années 90, les missions des Nations Unies ont été confrontées à des sorties de conflits non conventionnels, caractérisées par la nécessité de faire coexister au sein d'une même société des factions armées qui se sont affrontées, civils prisonniers d'allégeance déterminantes pour leur survie et enfin des institutions à la légitimité et aux capacités faibles ou défaillantes. Dans ce contexte, la réponse apportée par les Nations Unies à ces défis significatifs a été de développer des missions policières de maintien de la paix, communément désignées sous la notion de UNPOL ou CIVPOL, United Police Missions, et reposant essentiellement sur des compétences de policiers civils en matière d'usage parcimonieux de la force physique, de préoccupation pour la sécurité humaine des populations et d'interaction avec les institutions judiciaires indispensables au fonctionnement pacifié d'une société en reconstruction. Alors, bien entendu, ces missions ont fait l'objet d'un certain nombre de recherches parmi le milieu académique et on dégage 5 thématiques principales qui sont notamment, première d'entre elles, le type de modèle policier à adopter dans le contexte de réformes policières locales. Alors, on a un débat entre, d'une part, des chercheurs ou en tout cas des politiciens qui souhaiteraient développer un modèle de type police communautaire, comme on le connaît principalement en Amérique du Nord, qui, lui, est essentiellement un modèle de police consultatif, c'est-à-dire qu'il va faire participer la population aux demandes. Quelles sont les demandes de la population ? Et donc un modèle sensible aux demandes de la population. Et à l'autre extrême, on a une série de chercheurs qui, eux, disent est-il réaliste, en fait, dans un contexte post-conflit, comme par exemple nous l'avons connu en ex-Yougoslavie, de réfléchir sur la question des communautés. Police communautaire, d'accord, mais pour quelles communautés, pour quels intérêts ? Aussi, ce courant fait plutôt la promotion d'un modèle dit de police professionnelle, c'est-à-dire d'une police qui, indépendamment des intérêts des communautés, vise avant tout à lutter contre le crime et rétablir l'ordre. le maintien de l'ordre. Un deuxième débat gravite autour de la notion des forces policières à déployer. Compte tenu du contexte post-conflit et souvent d'une violence encore assez répandue dans ces sociétés, est-il plus sage ou plus judicieux d'adopter des modèles de police civile comme on les connaît ici en Amérique du Nord, ou plutôt des polices de type militarisé, c'est-à-dire des polices qui ont une force de frappe plus importante et un pouvoir de coercition plus important? Un troisième débat, qui n'en est pas vraiment un, mais qui s'intéresse plutôt à l'aspect historique et l'évolution de ces missions policières dans les opérations de paix. Où, depuis la première mission au Congo dans les années 60, qui, soit dit en passant, dure toujours, jusqu'aux missions les plus récentes, notamment au Kosovo, au Timor-Oriental, actuellement en Haïti, et dans le contexte de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, on observe une progression assez importante de la responsabilité que les polices ont à assumer dans ces missions. Alors d'un rôle essentiellement de surveillance, non pas tant de cesser le feu, mais de surveillance des polices locales, de formation des polices locales, on se rend compte que actuellement, notamment dans les missions que l'on a connues au Kosovo ou au Timor-Leste, on observe des policiers étrangers, des UNPOL, qui sont responsables de l'ensemble de l'application de la loi avec ce qu'on appelle des pouvoirs exécutifs, c'est-à-dire des pouvoirs où des policiers étrangers ont le droit, sur un territoire qui n'est pas le leur, droit accordé par les Nations Unies, d'exercer le pouvoir d'arrestation, d'exercer le rôle des agents de la paix, en fait. Ensuite, une avant-dernière thématique à porter sur les mandats policiers. Qu'est-ce qui est demandé à ces policiers dans ces missions? Ces mandats sont-ils réalistes? Ces mandats sont-ils possibles pour des policiers qui, la plupart du temps, ont une connaissance de l'environnement assez minimale, puisque les policiers exercent leur profession dans un contexte, la plupart du temps, pacifié? Ensuite, une dernière thématique qui a été abordée est celle de la formation des polices locales. Alors là, les thématiques parfois se trouvent interreliées, puisque dans la formation, on trouvera des auteurs qui réfléchissent sur l'idée d'une police plutôt militarisée à former, donc former les policiers locaux, à un ethos, une pratique plus militaire, versus des courants qui souhaiteraient plutôt développer des formations de police civile, comme on les connaît dans nos sociétés. Mais en dépit de ce débat et de ces thématiques qui couvrent un champ assez vaste, nous est apparue une observation finalement assez évidente, qui était une chose qui relevait du fait du peu de connaissances empiriques. En fait, toutes ces recherches se sont intéressés d'un point de vue extérieur à la police, sans jamais demander vraiment l'avis de ceux qui participaient concrètement à ces missions. Aussi, on disposait d'assez peu de connaissances empiriques, non seulement sur les défis opérationnels que les policiers rencontraient sur le terrain, mais également sur les défis organisationnels. Qu'est-ce que ça veut dire pour une organisation policière d'envoyer des policiers dans ces opérations de paix? Et qu'est-ce que ça signifie sur le terrain pour des policiers étrangers de devoir gérer une bureaucratie qui n'est pas la leur, à savoir celle des Nations Unies? Alors, l'idée c'est que qui traverse un peu ce livre, c'était de réfléchir à la question, en gros, comment apprécier, comment évaluer en fait l'action de la police dans ces opérations, et ce particulièrement à la lumière d'une doctrine qui a passablement évolué des Nations Unies à partir notamment de 2009. Où désormais les composantes impliquées dans la consolidation de la paix, qu'il s'agisse des militaires et des policiers, ont dorénavant l'obligation de résultat. Alors, qui dit obligation de résultat nécessite bien entendu de se poser la question de ce que font ces composantes sur le terrain et de ce que fait notamment la police sur ces terrains nouveaux. Alors, pour contextualiser encore un peu les éléments du livre, ce livre est le résultat finalement d'un atelier que nous avons tenu en mars 2011, ici à Montréal, qui regroupait des chercheurs et des praticiens de la police, qui impliquaient des organisations policières canadiennes, françaises, suisses, ainsi que du personnel de ministère de l'Intérieur, notamment du Burkina Faso. L'objectif pour les auteurs et les praticiens qui devaient commenter en fait les contributions des chercheurs était de dresser un état des lieux finalement sur cette question de la participation de ce que fait la police sur les terrains d'opération de paix. Ce, bien entendu, en ayant des données concrètes, ne serait-ce que pour ne pas répéter finalement les doctrines qu'on entend beaucoup dans la recherche. Alors, cette réflexion qui est partagée dans le livre se décline en 10 chapitres, plus l'introduction et la conclusion, et traite de contextes aussi divers que Haïti, l'Afghanistan, le Kosovo, le Timor-Leste, les îles Salomon, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, évidemment le rôle aussi des contributeurs, notamment du Canada, de l'Union européenne et des États-Unis. Alors, pour ce qui est des principaux résultats, je vous propose de céder la parole au co-éditeur du livre, Benoît Dupont.
Merci. Je vais essayer de faire ça court, mais de vous amener directement de l'introduction à la conclusion. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de lire le livre. Vous aurez gagné quelques heures. Non, l'éditeur dit non.
Faut pas dire ça. Faut pas dire ça.
En quelques mots, les résultats, ou en tout cas les éléments qui nous ont paru saillants, s'articulaient autour de trois grands thèmes qui sont ceux de la connaissance, de la confiance et de la localisation. Mais avant d'aller d'esquisser très rapidement ces trois thèmes-là, quand j'ai commencé à étudier la police il y a 15 ans, je me suis penché sur des études historiques de la police et j'ai notamment étudié comment les institutions policières se sont bâties il y a plus de 200 ans dans certains pays comme l'Australie. Et j'ai été frappé à la lecture des études de cas et des chapitres qu'on a réunis à quel point la situation qu'on rencontre dans certains des pays où interviennent ces policiers des Nations Unies était finalement très très proche de la situation de nos propres pays comme le Canada, l'Australie, il y a 200 ans de cela, c'est-à-dire des pays dans lesquels les institutions n'existaient pas et dans lesquels les policiers devaient assumer à la fois les rôles d'application de la loi, mais également toute une kyrielle de fonctions administratives qui n'étaient pas du tout celles pour lesquelles ils avaient été initialement formés, mais qui faisaient en sorte que le policier étant le seul fonctionnaire présent dans certains lieux de certains territoires, devait assumer cela et devenait un petit peu le répondant généraliste auprès de la population, ce qui évidemment institue des relations très différentes entre les policiers et la population, et également les relations très différentes des individus qui pratiquent ce métier aux diverses fonctions qu'ils doivent accomplir. Alors c'est un peu un retour vers le futur finalement que doivent faire certains des policiers québécois qui sont envoyés en Haïti ou dans d'autres pays dans lesquels ils sont confrontés à des situations qui sont complètement différentes de celles qu'ils connaissent au quotidien. Dans les premiers résultats préliminaires, parce qu'encore une fois ce sont des chapitres qui sont l'initiation de projets de recherche plus ambitieux, mais le premier résultat, la première série de résultats avait trait à la connaissance, notamment quatre conclusions temporaires sur le travail de ces policiers-là, qui a trait tout d'abord à la préparation. On s'est rendu compte que très souvent ces policiers provenant, qui avaient été très très bien formés dans nos pays occidentaux, très spécialisés, étaient confrontés à des situations pour lesquelles ils se sentaient pas toujours forcément très très bien préparés dans des sociétés dans lesquelles le fonctionnement des institutions était tout à fait opposé à ce qu'ils connaissaient au quotidien au Québec ou au Canada. Et donc la préparation crée un décalage entre leur expérience professionnelle et le métier qu'ils devaient réapprendre sur le terrain dans des situations finalement desquelles ils étaient très très peu familiers. Le deuxième thème relié à cette conclusion temporaire, cet ensemble de conclusions sur, reliées à la connaissance, c'est celui des transferts de connaissances, et de la parce que les policiers sont là pour constituer, aider de nouvelles institutions à émerger et donc transférer leur expertise et leurs connaissances. Et on s'est rendu compte qu'évidemment, c'était loin d'être aussi facile que cela. Une statistique qui parlera peut-être immédiatement, c'est celle de la police afghane, dans laquelle les taux d'analphabétisme sont de plus de 80%. Ça veut dire que 80% des policiers civils qui ont été recrutés en Afghanistan et qu'on doit former pour assumer un petit peu le maintien de l'ordre ne savent ni lire ni écrire. Donc dans ce contexte-là, pour des policiers provenant du Québec, de transférer ces connaissances-là va devenir tout un défi. Et donc on doit envisager des formations avec des pictogrammes, comme quand vous apprenez à des enfants qui ne maîtrisent pas la langue écrite à de nouvelles compétences. Et évidemment, le problème également du transfert de connaissances, c'est celui de l'aptitude, parce qu'on recrute pour aller dans ces missions-là des gens qui sont de très bons opérateurs sur le terrain. Ça ne fait pas d'eux de très bons enseignants ou de très bons formateurs. Alors il y a comme un décalage parfois qui peut être observé. Le troisième élément lié à la connaissance, c'est celui de la réintégration, c'est-à-dire comment les institutions québécoises ou canadiennes ou françaises ou américaines ou anglaises sont capables de se réapproprier les nouvelles connaissances que vont développer ces policiers sur le terrain. Pour l'instant, il y a encore un certain vide et un certain apprentissage qui reste à faire par les organisations policières qui envoient ces policiers dans ce type de mission-là. Et le dernier élément, c'est celui du renseignement. Il ne faut pas se cacher que dans un certain nombre de contextes, les policiers qui sont envoyés dans ces missions-là ont aussi comme mandat secondaire de recueillir du renseignement parce qu'ils opèrent dans des pays qui sont sur des routes de trafic de divers et variés. Et donc, il y a une espèce d'ambiguïté parfois sur les motivations qui peuvent être assigné à ces policiers. Donc la connaissance. Deuxième élément, celui de la confiance. Et là, on a observé à travers les différentes études de cas un certain nombre de problématiques qui se manifestaient. Premièrement, évidemment, le fait que ces policiers sont envoyés dans des pays qui sortent de conflits et par définition dans lesquels la population a une confiance tout à fait nul, voire une défiance absolue vis-à-vis des institutions qui représentent le pouvoir armé de l'État. Et donc, tout le défi, c'est d'intervenir, pour des policiers qui sont habitués dans des pays comme les nôtres à intervenir dans des situations où la majorité de la population leur fait confiance et va collaborer, à réapprendre à intervenir et à reconstruire de la confiance dans des pays où, évidemment, des factions, des groupes armés, l'État et les citoyens sont dans une relation extrêmement conflictuelle. Le deuxième élément par rapport à la confiance, c'est celui que même à l'intérieur de ces missions-là, qui sont extrêmement diversifiées, parce que vous avez des policiers canadiens, français, américains, anglais, mais la grande majorité des contributeurs sont des pays comme la Jordanie, le Bangladesh, le Pakistan, l'Inde, donc des pays qui eux-mêmes ne sont pas forcément au niveau de la professionnalisation des policiers extrêmement plus avancés que certains des pays dans lesquels ils interviennent, eh bien, il va y avoir parfois des frictions à l'intérieur même des contingents des Nations Unies entre des policiers provenant de démocraties occidentales traditionnelles et de pays émergents dans lesquels le rôle de la police est peut-être moins stabilisé. Et donc, à l'intérieur même de ces missions-là, il peut y avoir parfois un certain déficit de confiance. Et la dernière dimension par rapport à la confiance, c'est celle de l'absence de confiance de ces policiers vis-à-vis de l'organisation des Nations Unies qui chapeaute un peu leur mission et qu'ils surnomment très souvent la désorganisation des Nations Unies. Certaines des entrevues, c'était manifeste. Et donc, on a également, à l'intérieur même de ces missions-là, parfois des relations qui sont plutôt tendues entre les opérateurs sur le terrain et une espèce de hiérarchie un petit peu qui plane au-dessus d'eux, mais qui est basée à New York et dont le sens des réalités est parfois en décalage avec ce qu'ils vivent au quotidien. Et le dernier élément, c'est celui de la localisation, parce qu'évidemment, on s'est rendu compte que ces contingents qui provenaient du Canada, de France, d'Angleterre, d'Allemagne d'ailleurs, avaient parfois tendance à vouloir, ou des États-Unis, avaient parfois tendance à vouloir imposer ou transférer le modèle qu'ils connaissaient le mieux, persuadés de très bonne foi. Hein, ce n'était pas du tout un complot néocolonialiste qui vise à réinjecter un petit peu une domination, mais c'est le seul modèle qu'ils connaissent, donc de bonne foi. Il présente ce modèle-là. Vous avez plusieurs pays qui sont présents à l'intérieur de ces contingents, et donc il va y avoir une espèce de compétition informelle pour essayer d'imposer le modèle national dont proviennent certains policiers, qui évidemment va être parfois, quel que soit ce modèle, en total décalage avec les besoins locaux qui sont parfois extrêmement rudimentaires et qui nécessitent des réponses tout à fait ancrées dans une connaissance très fine des conflits locaux. Et donc, les quelques études de cas dans lesquelles on a observé des résultats encourageants, c'était des situations dans lesquelles on avait ces rationalités importées de l'étranger, mais également émergentes au niveau local, qui arrivaient à trouver un modus vivendi et qui arrivaient à dialoguer et à échanger et à essayer de créer un nouveau modèle, à la fois inspiré d'expériences étrangères, mais aussi profondément ancré dans la réalité locale. Bon, en gros, donc voilà un peu comment on a pu analyser, mais encore une fois, ce sont des conclusions très, résultats très préliminaires, mais c'est trois dimensions, connaissance, confiance et localisme. Et je ne voudrais pas vous laisser sur l'impression que ce livre est très pessimiste par rapport à ce type de mission, ou que c'est un réquisitoire contre les institutions policières qui participent à ce type de mission-là, mais c'est une espèce de premier état des lieux, des défis que rencontrent ces policiers sur le terrain et de l'énergie et des ressources qui vont certainement devoir être mises à leur disposition pour leur donner tous les outils pour remplir efficacement la mission qu'on leur a confiée. Donc voilà en gros, très rapidement, un panorama de ce qu'on a pu identifier. Et je vais donc, de ce pas, céder la parole. J'usurpe le rôle du maître de cérémonie. Je cède la parole à Jocelyn.
Il ne s'en formalisera pas, le maître de cérémonie. Donc, je céderai la parole à Antoine Meiji, bien sûr. Mais avant cela, j'aimerais quand même souligner la présence dans la salle d'un autre co-auteur de ce livre qui a écrit un chapitre sur l'Amérique latine. Il s'agit de Juan Carlos Ruiz Vasquez. Merci, monsieur Ruiz Vasquez, d'être venu de Colombie pour en partie le lancement de ce livre. Alors, Antoine,
Juste avant de céder la parole à Antoine, je dois vous annoncer que Xavier Dolan a acheté les droits du livre, donc il va adapter ce livre-là.
Donc, Antoine, vous avez une dizaine de minutes.
Bien, merci. Alors moi, tout d'abord, je vais commencer par un remerciement chaleureux envers les deux protagonistes, Benoît et Samuel, qui m'ont finalement offert la possibilité de travailler avec eux sur ce sujet et qui m'ont conduit à construire un nouvel objet de recherche, celui des policiers transnationaux engagés au niveau européen dans ces opérations de maintien de la paix. Alors, ma contribution se concentre essentiellement sur les opérations européennes qui se sont développées depuis une vingtaine d'années, dizaine d'années, dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense commune. L'idée n'était pas de retracer les dynamiques politiques, institutionnelles et sociales qui ont mené finalement à la construction de ces politiques européennes d'intervention sur des théâtres extérieurs. D'autres auteurs présents à cette table l'ont fait de façon extrêmement précise et intéressante. Et donc l'objet de ma contribution était essentiellement de répondre aux questions posées par Samuel et Benoît, à savoir quelles sont les pratiques et les usages des policiers européens mobilisés en tant finalement qu'acteurs transnationaux. Comment ces policiers qui interviennent sur des théâtres d'opérations extérieurs adaptent, modifient ou au contraire maintiennent leurs pratiques quotidiennes de policiers nationaux, le tout dans des contingents constitués, composés finalement de forces de police multiples, européennes, belges, françaises, anglaises, espagnoles, italiennes, etc. Alors, sans revenir sur une description extrêmement précise de toutes les opérations européennes de maintien de la paix, il est important déjà d'essayer de cerner les principales caractéristiques finalement de ces opérations européennes. Et de façon un peu heuristique, on pourrait repérer deux grandes caractéristiques. D'une part, ces opérations européennes se définissent par leur hétérogénéité. Hétérogénéité quant à leur objectif, à savoir que l'opération européenne menée sur le terrain du Kosovo, sur le terrain de la Macédoine, du Tchad ou encore de la Palestine, n'ont absolument pas les mêmes objectifs. Les mêmes objectifs officiels, à savoir quels sont leurs mandats. Leurs mandats sont très différents, pour la simple et bonne raison que ces mandats sont finalement le fruit de négociations extrêmement complexes entre des États au sein du Conseil européen, définis selon des logiques politiques, des agendas nationaux et européens, parfois antagonistes. Mission hétérogène également par rapport au contexte même de ces théâtres d'opération. L'intervention des forces européennes au Kosovo ou en Macédoine n'ont absolument pas la même portée, la même signification que les opérations effectuées sur le territoire africain, pour des raisons à la fois de géopolitique et des raisons également propres finalement à la construction européenne. On peut évoquer par exemple le cas de la Macédoine et du Kosovo avec cette question finalement du voisinage proche de l'espace européen. La deuxième grande caractéristique, c'est que ces missions européennes sont des missions dites hybrides intégrées. Alors, je vais expliquer ces termes d'hybride et d'intégré, à savoir qu'elles se caractérisent par des approches pluridisciplinaires qui allient à la fois des forces militaires, des forces de police, mais également des représentants des autorités judiciaires. On a donc cette volonté qui a été soulignée précédemment d'essayer de construire à la fois une intervention de maintien de la paix, mais également de reconstruction, de monitoring, selon les termes utilisés, pour favoriser la mise en place de nouveaux pouvoirs, aussi bien au niveau de la police qu'au niveau de la justice, mais également au niveau des autorités pénitentiaires, par exemple. Et là, je prends l'exemple de l'Irak. On a donc, dans cet environnement complexe, des missions extrêmement diverses qui font appel à des contingents eux aussi extrêmement hétérogènes. Et donc, la question qui m'intéressait, et en écho finalement à la grille construite par Samuel et Benoît, était de savoir comment les acteurs, ces policiers, devenus des acteurs transnationaux, pouvaient finalement faire évoluer leurs pratiques, ou en tout cas s'adapter à ces environnements et surtout également à ces cadres institutionnels européens complexes et hybrides. Alors, l'étude que j'ai essayé d'apporter se fonde sur des entretiens effectués avec une petite dizaine de gendarmes français qui ont participé soit directement à ces opérations de maintien de la paix, notamment en Bosnie, soit dans le cadre de postes à Bruxelles, en tant que responsable finalement des opérations extérieures de l'UE. Alors, pour véritablement interroger de manière heuristique ces usages, ces pratiques sur les théâtres d'opérations, on peut transformer le questionnement et parler et évoquer la question des contraintes. Quelles sont les contraintes face auxquelles ces policiers européens doivent mettre en place leurs usages et leurs missions? Alors, deux types de contraintes. Des contraintes tout d'abord collectives. Collectives au sens, finalement, des contraintes qui s'annoncent face au contingent européen mis en place sur ces théâtres d'opération. Alors, une des premières contraintes réside dans la temporalité, finalement, de ces missions. Très souvent, dans les entretiens que j'ai pu effectuer, les gendarmes évoquaient la question de la transition entre deux phases qu'ils ont tendance à séparer de manière assez nette, la phase de résolution du conflit, puis de maintien de la paix. Et leur grande contrainte collective était de finalement réduire au maximum le temps qui pouvait exister entre la fin des violences et le début finalement de la reconstruction sur le terrain des centres de pouvoir policiers, judiciaires ou pénitentiaires. Et à travers plusieurs exemples, alors je laisse un peu de suspense, donc il faudra se reporter au livre, à travers plusieurs exemples sont évoqués finalement des délais extrêmement longs qui avait pour effet de discréditer l'action même et la légitimité même de ces opérations, puisque, et là on revient à la question abordée par Benoît, les communautés locales avaient du mal à percevoir finalement l'efficacité même de ces opérations, puisque si les violences s'arrêtaient, elles ne voyaient absolument pas les forces de police locales se reconstruire. Donc on avait des délais très longs entre ces phases de stoppage des violences, pardon, et reconstruction, qui remettaient en cause cette question de la légitimité. Autre contrainte qui se pose de manière collective aux troupes européennes mobilisées, aux policiers européens mobilisés, c'est la question de la légitimité, notamment vis-à-vis des autorités locales, lorsque ces autorités locales existent encore après les conflits. Car très souvent, après les conflits, les autorités locales policières ou judiciaires n'existent pratiquement plus. Et donc, la reconstruction et l'intervention des policiers européens doit faire face finalement à cette absence d'autorités locales. Et lorsqu'elles existent, elles sont souvent gangrénées, alors c'était un peu le témoignage qui m'était donné, peut-être un peu stéréotypé, gangrénées finalement par des logiques de clans ou des logiques de corruption. Donc on avait ce problème de relation concrète entre les forces européennes mobilisées et les quelques autorités locales, policières et judiciaires qui existaient encore, si elles existaient. Enfin, dernière contrainte auxquelles finalement ces policiers transnationaux européens devaient faire face, c'était les contraintes au sein même du contingent européen et cette question de l'homogénéité du contingent européen mobilisé. Et là, on revient, finalement, c'est les conclusions tirées par Benoît, sur cette question des clivages culturels, sociaux, mais aussi de savoir-faire entre les différents policiers belges, français, britanniques, italiens, espagnols, mobilisés dans le cadre de ces opérations de maintien de la paix. Et cette question, finalement, des clivages culturels, de l'homogénéité des contingents mobilisés, elle a déjà été fortement et largement étudiée dans le cadre des missions de l'ONU, où il semble d'ailleurs que ces clivages soient un peu plus, alors ça demande peut-être des études plus approfondies dans le cadre des policiers européens, mais ces clivages dans le cadre des missions de l'ONU semblent beaucoup plus forts, notamment entre des contingents provenant des pays du Sud, pour le dire clairement, et des contingents provenant des pays du Nord. Où là, véritablement, on a des visions très stéréotypées sur les ressortissants des pays tels que l'Inde ou le Pakistan et de la part de policiers français qui ont tendance souvent à reprendre un discours assez stéréotypé, mais en tout cas qu'ils vivent eux-mêmes sur le terrain. Alors, cette question des contraintes collectives et notamment des clivages culturels et des savoir-faire au sein même du contingent européen nous renvoie directement au deuxième type de contraintes, à deuxième problématique finalement auxquelles doivent faire face ces policiers transnationaux, c'est les contraintes d'ordre individuel. Car ce sont des individus avec leur savoir-faire, avec leur formation. Et ces individus, et là on revient aux questions assez classiques qui transcendent finalement les travaux sur les processus transnationaux et les acteurs transnationaux, c'est la question de l'innovation de ces acteurs. Comment ces acteurs inventent de nouvelles pratiques? Comment ces acteurs font également circuler leur savoir-faire à travers leur intervention. Alors, je conclurai là-dessus, la question est de savoir si on a une part d'innovation de la part des policiers transnationaux ou au contraire, une part finalement de reproduction de leur savoir-faire. Et c'est là toute la question qui mérite, à mon avis, encore des études et donc fait un appel finalement à prolonger ce travail avec notamment des travaux sur le terrain, de savoir si les policiers qui sont sur le terrain, innovent totalement, c'est-à-dire réinventent leur savoir-faire parce qu'ils interviennent dans des contextes très différents, ou si au contraire, ils affirment leur savoir-faire, quitte à provoquer finalement et à renforcer les clivages qui peuvent exister entre les différents contingents. Voilà donc l'exemple et les échos à partir de la grille construite par Benoît et Samuel qui ont pu être développées dans le cadre des opérations de maintien de la paix au niveau européen. Merci.
Merci Antoine Mégy pour cette présentation. J'espère que votre appel sera entendu. Les organismes subventionnaires pourront être sollicités pour poursuivre ces études. Donc, je passe la parole à Frédéric Mérand pour un regard extérieur sur ce livre, pour un regard critique. Frédéric.
Merci, Jocelyn. Alors d'abord, avant d'entrer en matière, j'aimerais faire deux confessions. La première, c'est que je suis politologue et non pas criminologue. Pour ceux qui sont extérieurs à l'Université de Montréal, vous ne savez peut-être pas que nous partageons le même étage, les mêmes toilettes, le même ascenseur, et pourtant nous nous adressons à peine la parole. Donc je suis très heureux d'être ici pour dialoguer avec des criminologues. C'est vrai que nous, on a toujours un peu peur que les étudiants qui viennent en sciences politiques, ce soit pour devenir politiciens. Alors, je vous laisse deviner ce qu'on pense de ceux qui vont en criminologie. La deuxième confession, c'est que moi, je travaille sur les militaires depuis longtemps, donc je m'intéresse beaucoup aux militaires, et je dois dire que la première chose à dire sur cet ouvrage, c'est qu'il m'a convaincu que la maréchaussée faisait des choses extrêmement intéressantes, et finalement, je me demande même si je devrais pas changer de vocation, parce que je n'ai jamais aimé les films de guerre, j'ai toujours beaucoup aimé les films policiers, donc peut-être que je devrais aussi travailler... sur les policiers. Alors, ce qui, selon moi, résume assez bien l'interrogation qui est à la base de votre ouvrage, c'est la phrase suivante que je tire de la page 239. En quoi un policier formé dans le cadre d'une société pacifiée peut-il être utile ou peut-elle être utile dans un contexte post-conflit ou de sortie de guerre? Ça, je pense que c'est vraiment la question fondamentale à la base de l'ouvrage. On s'attend à ce que des policiers travaillent dans un ordre qui est relativement stable et prévisible, pacifié. Alors là, avec les nouvelles opérations depuis une quinzaine d'années, on les met dans des contextes extrêmement instables, dans lesquels on s'attendrait plutôt à voir opérer des militaires, c'est-à-dire le sujet sur lequel je travaille, sur lequel Jocelyn a aussi travaillé. Donc, je vais essayer de voir dans les 10 prochaines minutes dans quelle mesure, à mon avis, l'ouvrage permet de répondre à cette question. Je vais commencer par les choses que j'ai le plus appréciées. Je vais suivre par ce qui m'apparaît être des contributions importantes à différentes littératures, pas seulement la criminologie. Je vais évidemment avoir quelques critiques. Et je vais terminer par une question pour les auteurs. Alors, la première chose à dire, et là, c'est aussi un hommage que je rends à Antoine Delbusseau aux presses de l'Université de Montréal, l'ouvrage est magnifique. Donc, contrairement à ce que disait Benoît Dupont, je vous encourage à l'acheter. Moi, je suis obsédé par les coquilles. Je n'en ai trouvé aucune. Il est magnifiquement édité. C'est érudit, c'est soigné, c'est très élégamment écrit, c'est très instructif. Et surtout, ça se base sur une démarche qui très rare et très intéressante, c'est celle de faire dialoguer les scientifiques, les universitaires et les policiers, les praticiens. Ça, c'est très intéressant. Ils expliquent même dans l'introduction comment les chapitres qui ont été écrits, certains par des universitaires, mais d'autres aussi par des policiers, soit à la retraite, soit en exercice, ils se sont échangés les chapitres à l'avance. Et quand c'était un universitaire qui écrivait un chapitre, c'était un policier qui réagissait pour voir si ça correspondait bien à son expérience. Ça, je trouve que c'est une démarche, et c'est très, très réussi. Je salue cette fort. La deuxième chose que j'ai apprise, qui m'a paru très intéressante, c'est oui, effectivement, il y a un phénomène qui est peu, voire pas étudié, et pourtant très important, c'est celui du rôle croissant que jouent les policiers dans les opérations de paix. Donc aujourd'hui, ils sont 14 000 par année. Donc ça correspond à beaucoup de gens. C'est une nouvelle philosophie en matière de gestion de crise qui est très mise de l'avant, qui implique les policiers. Il faut absolument s'y intéresser. Et à ma connaissance, cet ouvrage est un des premiers à le faire. Et c'est particulièrement compliqué parce que, je vais y revenir un petit peu quand je parle de l'Afghanistan, vous prenez des gens, c'est deux points que je veux faire là-dessus, il y a deux défis importants qui sont soulignés dans cet ouvrage. Le premier, c'est celui que vous demandez à des policiers qui viennent de contextes très, très différents. Donc, Samuel en a un peu parlé. Oui, il y a certains pays qui ont la gendarmerie, d'autres pays qui ont la police professionnelle ou communautaire. Ça, c'est une opposition, mais il y en a des plus importantes que ça. C'est-à-dire qu'on demande à des policiers qui viennent de dictatures, par exemple, à expliquer les rudiments de l'état de droit dans des pays en voie de développement. Donc, c'est ou des états plus ou moins faillis. Donc, il y a vraiment un énorme problème juste avec cette question-là. Et l'autre, évidemment, c'est que on plonge des policiers qui, pour certains, viennent, je sais pas moi, de Rouyn-Noranda, et là, ils se retrouvent à Port-au-Prince, où ils doivent gérer une situation qui est justement une situation qui n'est pas pacifiée. Et si le président de l'Assemblée me le permet, je voudrais lire quelques entretiens, quelques extraits d'entretiens, parce qu'une des choses qui est formidable dans cet ouvrage aussi, c'est qu'on fait beaucoup parler les policiers eux-mêmes. Il y a beaucoup d'extraits d'entretiens qui sont savoureux. Je vais en lire quelques extraits, si vous le permettez. Donc ça, c'est un policier qui parle, qui était en Haïti. Il dit « Des histoires, des claques à la gueule que j'ai vues, des coups de pied en pleine face, je fais quoi? Les droits et libertés, les droits de l'homme au niveau planétaire, je fais quoi? Je le dénonce? Je le dénonce-tu pas? » Je me demandais si je le dénonce, parce que si je dénonce, je pourrai plus jamais être tout seul, ils vont me trouver. Ça peut être une bibitte, une balle perdue, n'importe quoi. Tu vis parmi la population, là. Ça fait que tu fermes ta gueule puis t'essaies de dire que ça passera pas. Il est arrivé une fois une manifestation au centre-ville de Port-au-Prince. Là-bas, les manifestations, c'est pas des petites manifestations peace and love comme ici, là. T'as des grosses roches puis c'est fatigant, puis c'est fatigant, puis quand ils t'en lancent une sur le véhicule, là, puis ça fait bang sur ton capot. Si au moins ça avait frappé, mettons, une vitre, c'est sûr que les gens étaient blessés ou peut-être même morts. Genre, c'est un autre extrême. Là, il parle de son appréciation d'une scène de crime. Il dit « Nous autres, on enquêtait les meurtres. Là, il y avait un meurtre qui était arrivé à Inche, à une heure de route de Port-au-Prince. On se rendait pas tout le temps entre les événements parce que ce qui arrivait le soir, la nuit, puis tout ça... Là, à un moment donné, un matin, je vais les voir pour savoir comment vous avez géré le meurtre. C'est un meurtre de médecin. Il s'est fait tirer une balle, ils l'ont étranglé, puis il s'est fait lancer dans une piscine. Une piscine creusée, là, dans un hôtel de Inche. Là, j'arrive, puis je dis, puis comment ça a été, puis tout? Il me dit, ah ben, ça a été. On a commencé par protéger la scène. À date, ça va bien. Là, après, je dis, bon, qu'est-ce que vous avez fait avec le corps? Ben, il dit, on n'a pas pu récupérer le corps tout de suite. Je dis, pourquoi? Il me dit, ben, les démons. Je dis, les démons? Attends un peu, là, je te suis pas. Là, il me fait un dessin et il me dit que tout alentour de la piscine, c'était possédé. Il dit, on pouvait pas aller récupérer le corps. Là, tu fais quoi? Moi, j'avais les jambes coupées. C'est quoi la prochaine question que tu poses? C'est, quoi? Vous l'avez laissé là? Il dit, non, à un moment donné, il y a un brave qu'on a pris. Il dit, on a baissé le niveau de l'eau, puis avec une branche, on a fait venir le corps, puis on l'a récupéré. Tabarnak, comprends-tu? Haïti, c'est ça. Donc, je trouve que ça donne un juste ça, ça vaut la peine d'acheter le livre. Il y a plein d'extraits comme ça qui donnent vraiment une très bonne idée, qui restituent parfaitement, pas seulement le choc culturel, le choc professionnel, l'ampleur de la tâche de ces policiers. Ça, c'est pour les choses que j'ai adorées dans le livre. Il y a aussi des contributions qui m'apparaissent dépasser largement la criminologie, parce que vous défrichez des champs de recherche qui sont négligés, mais qui s'insèrent bien dans des débats qu'on a dans plusieurs domaines, me semble-t-il. Le premier, c'est en relations internationales, donc qui est plutôt mon domaine d'étude. Et là, il y a effectivement des chapitres très, très intéressants, notamment sur le Kosovo, où on montre que l'idée que les États occidentaux vont, par l'entremise des policiers, des juristes, des militaires, aller enseigner à d'autres pays les normes internationales et que tout va bien se passer, en prend pour son grade dans ce livre. Et bon, ça, ce sont des théories pour ceux qui s'intéressent aux relations internationales qui sont très populaires, le constructivisme qui montre qu'il y a une diffusion des normes. Là, vous montrez que concrètement, c'est très, très compliqué. Les spécialistes des conflits aussi, je pense, ils vont apprendre des choses, notamment en comparant des acteurs auxquels ils sont habitués, les militaires, y compris dans les interventions, avec les policiers, voir qu'il y a des choses qui se ressemblent beaucoup. Il y en a d'autres qui sont très, très différentes. Mais une des choses qui est semblable, c'est le fait qu'évidemment, ces opérations sont instrumentalisées par tout le monde, par les acteurs locaux, par les policiers en mission eux-mêmes, par les États qui déploient des policiers. Donc ça, c'est aussi très, très intéressant. Et là, il y a un chapitre aussi qui est formidable sur l'Afghanistan et sur la catastrophe qu'est la reconstruction de la police afghane en ce moment. Il y a des morts à chaque semaine. Les historiens aussi vont beaucoup s'intéresser. Donc Benoît, dans la conclusion, tu en as parlé un petit peu. Évidemment, les policiers avec l'armée constituent les piliers de ce que Max Weber appelait le monopole de la violence légitime. Et pour nous, pour les politologues, c'est ce qui constitue la formation de l'État, c'est les policiers et l'armée. On a beaucoup étudié l'armée en sciences politiques, on s'en est beaucoup moins intéressé aux policiers et au rôle qu'ils pouvaient jouer. Et là, moi, je trouve qu'il y a un chapitre aussi qui est très intéressant de Eugène Marcel Leboeuf qui dit, finalement, les policiers travaillent toujours dans une ambiguïté je vais être sûr d'utiliser la bonne expression, structurée, une ambiguïté structurée. Sauf que dans les pays, dans les États, démocratiques, les États de droit, l'ambiguïté est très structurée. Donc le travail de policier demeure ambigu, mais les paramètres sont clairs. Alors que dans un État qui est très fragile, où tout est à reconstruire, mais forcément l'ambiguïté est beaucoup moins structurée. Et c'est toute une façon finalement de retracer, comme Benoît le disait il y a 200 ans, la formation des États, la construction des États et comment les détenteurs du monopole de la violence finalement, ces gens sont en train d'essayer de se doter ou d'aider les autorités locales à se doter du monopole de la violence, comment ils opèrent, c'est vraiment fascinant. Finalement, les sociologues vont y trouver aussi beaucoup de choses. Il y a une discipline qui existe depuis au moins 60 ans en sociologie, qui est la sociologie militaire. C'est même, je crois, le groupe 1 de l'Association internationale de sociologie. Et dans ce livre, il y a tout un programme de recherche pour développer une sociologie policière. Donc, il y a notamment le chapitre de Juan Carlos Ruiz Vázquez qui parle des dynamiques qui sont communes à plusieurs forces policières dans le monde, la féminisation, la démocratisation, la professionnalisation. Il y a aussi un chapitre qui est sur un phénomène qui est moins commun, celui-là, qui est la privatisation, notamment aux États-Unis, parce qu'on apprend que la formation des policiers, par exemple en Afghanistan, au Kosovo ou ailleurs, dans le cas américain, n'est pas assurée par des policiers américains, mais par DynCorp et des sociétés privées qui finalement obtiennent des contrats du State Department. Donc il y a des phénomènes qui semblent voir converger les forces policières et donc qu'on peut observer dans ces théâtres. Il y en a d'autres où finalement les modèles de policing demeurent très 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 différents entre ceux qui justement, comme on le disait tout à l'heure, viennent plutôt d'une tradition gendarmique. J'ai appris un nouveau mot, la tradition gendarmique, donc plutôt les polices militaires, les traditions plutôt de police civile, les policiers plutôt professionnels par rapport aux policiers communautaires. Donc là, je pense que les sociologues ont aussi beaucoup de choses à apprendre. J'essaie d'accélérer afin de ne pas m'interposer entre nous et le cocktail. Les critiques, j'en ai deux essentiellement. Bon, ce sont des critiques dont je ne vous tiens pas rigueur, parce que pour un ouvrage collectif, c'est toujours très, très difficile de faire un ouvrage collectif parce que vous avez 10 ou 12 égos à gérer et personne ne veut se voir imposer une grille d'analyse commune ou une démarche commune. Et donc, c'est difficile de faire sens de différentes contributions qui viennent de projets de recherche qui sont souvent individuels à la base. Et le livre s'en sort très, très bien pour donner une cohérence à tous ces chapitres. Néanmoins, je pense que si vous deviez faire une suite à ce livre, il pourrait être utile de développer un cadre d'analyse commun. Vous en développez un, Benoît Dupont et Samuel Tanner, dans le chapitre 1, mais finalement, il n'est pas vraiment repris par les autres auteurs. Et d'une certaine manière, le projet me semble tiraillé entre deux démarches qui ne sont pas nécessairement compatibles. Une première démarche qui vise vraiment à observer est-ce que ces opérations de policières, sur le plan opérationnel fonctionnent. Donc, il y a plusieurs chapitres qui montrent, je reprends l'exemple de l'Afghanistan, que ça ne fonctionne pas très bien, ou en tout cas, il y a énormément de lacunes. Et il y a une autre démarche, qui est plutôt celle, par exemple, que Samuel adopte, ou Nathalie Duclos, qui porte davantage sur la sociologie de l'organisation policière. Donc, en quoi ces opérations transforment ou représentent des transformations dans l'organisation policière. Et donc, je pense que là, il y aurait peut-être un travail de mieux arrimer ces deux projets. Même si je conviens vraiment qu'il s'agit d'un premier état des lieux, il y a un caractère pionnier dans l'ouvrage aussi qui en fait son intérêt. La deuxième chose, c'est sur le plan méthodologique, puis ça c'est vraiment une remarque de politologue, je crois, je ne sais pas si c'est aussi répandu en criminologie. Vous avez beaucoup d'études de cas qui sont très riches, très intéressantes, j'en ai donné des extraits. En même temps, on aurait aimé voir plus de comparaisons systématiques. Donc par exemple, les Européens, les Américains, les Latino-Américains, qu'est-ce qui les ressemble, qu'est-ce qui les distingue? Là, on a un peu une espèce d'accumulation d'études de cas. Je pense que la prochaine étape, ce serait de faire une comparaison plus systématique. Donc ça, ce sont mes deux critiques, je vous laisse y réfléchir. Comme je dépasse largement mon temps, je vais simplement vous poser une question. Est-ce que je suis toujours dans les...
Non, vous êtes dans les temps.
Je suis toujours dans les temps, merci Jocelyn. Donc, c'est un ouvrage qui ouvre de très belles perspectives de recherche. C'est un ouvrage qui donne de l'ouvrage à des légions de criminologues. Ça tombe bien, je pense que vous avez beaucoup de recrutements à l'Université de Montréal. il me semble quand même qu'il y a une question qui reste en suspens, de l'aveu même des directeurs. À la fin du livre, j'avoue ne pas comprendre pourquoi les États... Parce que, Benoît, tu dis, ce n'est pas un réquisitoire contre le travail des policiers, tu as tout à fait raison, je pense que c'est même un hommage au travail des policiers, mais on se pose quand même la question, mais pourquoi les États déploient-ils des policiers dans ces opérations? Parce que ce que vous montrez, bon, pour le Bangladesh, comme pour les militaires, évidemment, il y a une compensation financière qui est intéressante. Pour les pays riches, ça coûte de l'argent, il y a un coût d'opportunité parce que le policier à Rwanda, ben, il n'est plus à Rwanda, donc c'est cher, c'est compliqué, il y a les assurances, etc. Ça peut être un instrument de politique étrangère, mais on ne voit pas vraiment que beaucoup de pays aient obtenu une plus grande influence internationale grâce à leurs opérations policières. Les chapitres sur l'acquisition des compétences et la transmission des compétences de retour, parce qu'on pourrait dire, voilà, les policiers ont appris beaucoup de choses à Port-au-Prince qu'ils vont pouvoir réutiliser à Rwanda, mais finalement, vous montrez que le verre est plutôt vide que plein, à moitié vide qu'à moitié plein. Et finalement, il y a aussi un chapitre très intéressant sur ce que un colonel de la gendarmerie française qui s'appelle Hervé Dagès appelle le retour en sécurité intérieure, où en gros, son argument, c'est que ben, les policiers, lorsqu'ils vont au Kosovo, ils accumulent aussi des informations sur les réseaux criminels, les réseaux terroristes, des choses comme ça qui peuvent être utiles lorsqu'ils reviennent en France. Mais c'est pas clair non plus. Considérant que la plupart des chapitres sont aussi très pessimistes, le cas de l'Afghanistan, encore une fois, est frappant sur l'influence positive, concrète que ces déploiements policiers ont dans les États fragiles. Finalement, je vous pose la question, à quoi ça sert d'envoyer des policiers dans ces pays lointains? Je vous remercie.
Merci Frédéric. Donc, je vais autoriser une période de débat entre les auteurs pendant une dizaine de minutes. Et puis ensuite, vous aurez l'occasion de poser des questions. Alors, Benoît, Samuel, qui veut commencer? Monsieur Mégy.
Juste pour faire une tentative de réponse à ta question insoluble, selon moi, ou impossible, parce qu'elle fait appel à tellement de rationalité qu'une seule réponse n'est pas possible. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus forcément justement chercher une réponse rationnelle à cette question-là. Je pense qu'il y a d'abord, et il ne faut pas non plus minimiser la volonté des États d'être de bons citoyens internationaux et des États stables d'envoyer des policiers pour essayer de stabiliser des pays qui émergent difficilement de conflits extrêmement violents. Donc oui, il y a des intérêts directs, d'autres intérêts indirects, mais il y a aussi une espèce d'altruisme interétatique qui fait en sorte que, ayant constaté que les forces armées sont souvent pas forcément les mieux positionnées pour assurer cette reconstruction, pourquoi ne pas essayer autre chose? Et à l'échelle des investissements qui sont consentis, envoyer des policiers et le nombre des policiers qui sont envoyés par les pays du Nord, ça reste quand même un très petit investissement financier pour des pays comme la France ou le Canada, même si pour les organisations qui envoient ces policiers-là, ça peut être extrêmement lourd à assumer, notamment dans des systèmes étatiques décentralisés ou fédéraux dans lesquels on envoie des membres d'organisations locales ou provinciales qui n'ont pas des centaines de milliers d'agents en excès à envoyer aux quatre coins du monde. Bon, la police de Montréal, c'est 5000 policiers. La SQ, c'est 6000 policiers peut-être. D'en envoyer 25 ou 30 à tout moment, c'est déjà une espèce de sacrifice. Mais je pense que quand on pose la question aux responsables et aux décideurs politiques, parce que souvent, ce sont aussi les décideurs politiques, il y a quand même cette volonté de faire sa part pour essayer justement de contribuer à la stabilisation de certains pays, sachant qu'évidemment, si ces pays sont déstabilisés, il y aura un impact qui sera ressenti à plus ou moins long terme sur nos propres pays en termes de nouveaux flux de criminalité transnationale. Donc il y a toujours cet équilibre un petit peu délicat entre un intérêt à conserver des sociétés stables dans les pays du Sud versus des motivations un petit peu plus nobles je dirais, par rapport à ces missions-là. Bon.
Je pense que pour reprendre en partie ce que disait Benoît sur l'idée de conflit de rationalité, il faut, au bénéfice de l'auditoire ici, ce qu'il faut expliquer, c'est que toutes les missions ne se font pas forcément sous l'égide des Nations Unies. Et en matière très précisément de renseignement, les missions sous l'égide des Nations Unies, en fait, ont l'interdiction de collecter officiellement du renseignement. Ce qui n'est pas le cas, en fait, ou ce qui n'est pas encore déterminé dans le cadre des missions qui sont déployées par l'Union européenne, en fait. Et justement, je trouve que en cela, le texte d'Hervé Daget, c'est vraiment intéressant, puisque lui-même assume, enfin, dans le texte, Antoine pourra ajouter des précisions s'il le souhaite, la collecte de renseignements à des fins criminelles est totalement assumée, en précisant bien ce que fait Hervé Daget, de dire à la condition de spécifier quelles sont les règles de droit qui nous autorisent, de manière à ce que les pays qui nous accueillent ne nous considèrent pas comme des espions, ou en tout cas avec des motivations qui soient pas aussi nobles qu'humanitaires. Après, dans le contexte des Nations Unies, alors comme je disais, la collecte de renseignements est officiellement interdite. C'est sûr que le fait d'avoir été confronté à ce qui se passe sur des terrains où, malheureusement, dans des situations comme Haïti, qui sont quand même, et ça a été documenté, des zones de trafic en tout genre importantes, je pense qu'il serait un peu angélique de croire que, sans pour autant en faire une utilisation systématique, mais au moins, il y a, comme à l'idée d'un thermomètre, une prise de température de ce qui se passe dans ces régions aussi. Et je crois qu'il serait naïf que de ne penser qu'aux objectifs strictement humanitaires aussi.
Antoine ?
C'est juste par rapport au cas européen. Alors, sur l'investissement, pourquoi des policiers européens, etc. Bon, il y a peut-être déjà l'effet de l'institutionnalisation d'un nouveau secteur européen, avec cette idée de finalement durcir cette politique européenne de sécurité et de défense commune. Mais enfin, là-dessus, c'est peut-être une piste que tu as plus de réponses que moi. Mais par contre, dans le cas de la gendarmerie, clairement, pour la gendarmerie française, mais pour toutes les forces de police à statut militaire en Europe, cette idée des interventions extérieures, c'était une façon, dans les années, début des années 2000, de justifier leur existence au niveau européen, où il y avait un énorme débat, notamment avec des pays qui n'avaient pas ces polices à statut militaire, qui, au sein du Conseil européen, expliquaient que des polices à statut militaire n'étaient pas forcément des polices démocratiques. Et donc on a eu tout un travail de la gendarmerie pour produire des recherches sur la pertinence de ces polices à statut militaire, à la fois dans la lutte contre la criminalité organisée transnationale, et notamment cette question du retour des informations en sécurité intérieure. Et donc c'est finalement un des effets de cette volonté de se légitimer dans le débat européen qui a fait que les gendarmes italiens, les gendarmes français se sont accaparés cette question des actions extérieures de l'UE et ont investi durablement ce secteur-là pour montrer leur légitimité et montrer l'importance de leur existence. Donc on avait vraiment une stratégie, mais totalement assumée par la gendarmerie française, en tout cas, puisqu'elle c'était dans certaines conclusions de rapports, etc., qui voulait être finalement cette police européenne qui pouvait intervenir à l'extérieur, justement dans ces phases de transition entre violence, maintien de la paix et construction de nouveaux pouvoirs policiers ou judiciaires. Donc on avait là des stratégies finalement d'organisation policière qui justifiaient ces investissements, en tout cas pour le cas des polices à statut militaire en Europe.
Alors je voudrais vous inviter donc à participer maintenant. La parole est à vous, il y a un micro ici. Ceux qui sont intéressés à poser des questions et à relancer le débat. Oui, madame, si vous voulez vous déplacer pour poser la question.
Voilà. Donc, bonsoir, merci beaucoup pour votre recherche qui complète très bien, en fait, toutes les recherches conduite actuellement sur les ONG, les militaires. En fait, je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y avait un livre de Séverine Hausser sur justement peace building et les problèmes similaires des militaires dans leurs opérations. Donc en fait, j'ai deux questions. Une sur les liens avec la police privée. Frédéric mentionnait la police privée. Je me demandais si, avec les policiers que vous avez eu des entretiens avec, qu'est-ce qu'ils pensaient des polices privées, qu'est-ce qui allait se passer dans le futur, en fait, quand eux rentraient, qu'est-ce qui se passait avec ces polices privées. Ensuite, vu tous les défis organisationnels et surtout les défis opérationnels, quelles sont les conclusions des policiers que vous avez aussi eu des entretiens avec? Est-ce qu'eux pensaient que ce serait mieux de ne pas être là du tout? Ou est-ce qu'eux pensaient qu'il faudrait continuer à être dans ces opérations? Enfin, quelles sont les recommandations de ceux que vous avez entretenus?
Merci. Benoît, peut-être?
Peut-être sur la police privée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces sociétés de sécurité privée, en fait, ça concerne principalement les États-Unis qui ont choisi ce mode-là pour offrir leur participation dans des opérations de maintien de la paix. Donc, ce sont des entreprises de sécurité privée qui obtiennent des contrats du gouvernement américain pour fournir un certain nombre de policiers aux Nations Unies. Et ils recrutent donc à cet effet des policiers retraités ou des policiers qui prennent un congé sans solde de leur organisation, qui suivent une formation extrêmement sommaire et qui sont ensuite déployés dans les pays dans lesquels opèrent les contingents des Nations Unies. Donc ce ne sont pas des agents de sécurité privée en tant que tels, ce sont d'anciens policiers ou des policiers en exercice qui sont recrutés, équipés, formés, mais formés, j'ose à peine parler de formation parce que c'est très 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 sommaire, et déployés au nom des États-Unis. Donc, et c'est un modèle qui est assez insatisfaisant sous plusieurs aspects, notamment le fait que des policiers retraités qui proviennent du fin fond des États-Unis ne sont pas nécessairement les mieux placés, et forcément, pas forcément en meilleure santé physique ou pas forcément ayant renouvelé un petit peu leurs compétences et conservé un certain niveau d'aptitude pour aller intervenir dans des pays dont ils connaissent souvent absolument rien et étant principalement motivés par l'appât du gain parce qu'évidemment leurs contrats sont extrêmement attractifs. Donc en ce moment les États-Unis sont en train d'essayer de redéfinir un modèle pour reprendre un peu le contrôle du déploiement de policiers, mais évidemment c'est très difficile parce que c'est un système policier ultra fragmenté où la moyenne des effectifs des organisations policières c'est à peu près je pense entre 35 et 100, donc ce sont de tout petits services de police qui n'ont pas forcément les capacités pour contribuer à ce type de mission-là, et les services de police d'une taille conséquente sont des services de police fédéraux d'enquête, comme le FBI, ou les services secrets qui ne peuvent pas contribuer à ce type de mission-là. Donc le modèle privé est extrêmement, pour l'instant, c'est loin d'être un succès. Ceci dit, il y a aussi des très grandes firmes de sécurité privée transnationales qui ont proposé des missions clés en main à des pays ou à des organisations, et évidemment, probablement qu'un jour ou l'autre, on verra cela se dérouler, parce que les États ont de moins en moins d'effectifs à consacrer à ce type de mission-là.
Samuel, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou compléter la deuxième question?
Je vais peut-être aborder la deuxième question sur l'opinion en fait des principaux intéressés sur le terrain. Je vous dirais en fait que c'est assez intéressant parce que un élément de réponse est la chose suivante. Quand on pose la question aux policiers, feriez-vous une deuxième mission? Immédiatement, oui. 99% des policiers, oui, on referait une mission. Et quand on dit, mais pourquoi? Parce que la plupart du temps, les policiers, en dépit de cette frustration qu'ils peuvent ressentir en arrivant sur le terrain, frustration qui est essentiellement liée à l'absence de moyens et de ressources dont ils auraient besoin pour accomplir leur mandat, donc ce qui peut-être en dit long sur la nature irréaliste de certains mandats, développent des stratégies, développent des modes de fonctionnement qui, d'une manière ou d'une autre, peut-être moins formellement que ce qu'il ne se passe ici, contribuent malgré tout à, par exemple, tisser des liens avec la population locale, ou contribuer par exemple aussi en dehors de leurs heures de mandat, ne serait-ce que dans la collecte de fonds pour la reconstruction d'un orphelinat, ou j'ai eu dans les entrevues que j'ai eu la chance de mener des policiers qui disaient, ben nous par exemple ce qu'on faisait c'est qu'on organisait des visites libres d'un commissariat pour montrer à la population qu'est-ce que c'est que la police, qu'est-ce qu'elle fait, quel est son rôle. Et je dirais, à la pièce, les policiers développent toute une série de stratégies. Et bien entendu, la stratégie peut être entendue comme quelque chose de positif ou négatif, mais je dirais principalement positif, de manière à se dire, bon, ok, c'est bon, je suis parti dans cette mission, j'avais mes grandes attentes, j'avais mes grandes envies, maintenant je suis déployé dans un endroit où je dois enseigner la police, mais il n'y a pas de commissariat, il n'y a pas de policier, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a deux possibilités, soit on reste au bord de la plage pendant 12 mois, et puis bon, ben voilà, soit on se réveille et puis on essaye de développer soi-même sa propre mission. Et je dirais qu'à ce niveau-là, dans les entrevues que j'ai eues, j'ai eu des exemples vraiment très 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 intéressants qui, en bout de ligne, contribuent encore une fois à recréer un réseau social local, à recréer une confiance, à développer en fait des projets qui rassemblent en fait la population. Alors, c'est intéressant parce que dans le contexte domestique, ce genre d'action est plutôt considéré comme n'étant absolument pas du travail policier. Hein. Et dans le contexte des opérations de paix, au contraire, ces projets-là suscitent un grand intérêt de la part des policiers. Donc pour eux, vraiment, mais d'un point de vue individuel, pour eux, ces missions sont tout à fait importantes. Et considèrent, la plupart des policiers considèrent qu'il faut continuer ces actions-là. Après, bon, ça développe d'autres intérêts, ne serait-ce que de partage d'informations et de rencontres avec des collègues d'autres contingents. Parce que c'est sûr que ce qu'on a pu dire aujourd'hui pouvait effectivement sembler teinté d'un voile un peu gris, mais il y a plein d'exemples individuels où des policiers québécois ont développé, par exemple, des relations extrêmement fortes avec des policiers ivoiriens, des policiers français, américains, et gardent ce contact et échangent sur leurs pratiques.
D'autres interventions? Oui, madame, si vous voulez venir au micro, je vous prie.
Merci, je m'appelle Rosalie Nguyen. Alors, ma préoccupation est axée sur trois dimensions. La première dimension, c'est celle du terrorisme que vous n'avez pratiquement pas abordé, parce que nous savons que dans certains pays, il y a des agents de la police qui infiltrent les corps policiers. Alors, comment les policiers sont-ils préparés à gérer ce genre de situation? Et lorsque les policiers arrivent dans un pays, est-ce que l'éducation se fait au niveau des mœurs? Parce que lorsque ces gens-là arrivent, lorsque ces étrangers arrivent, la population est dans les besoins. Alors, comment gérer les relations entre la police et la population locale? Parce que ces gens ont des attentes, par exemple, reconstruire leur maison, l'alimentation, l'éducation et autres reconstructions, entre autres. Est-ce qu'il y a une relation qui s'établit entre cette police qui arrive et l'éducation des masses, ces masses qui ne comprennent pas le rôle ou bien les mandats de la police? Et ma troisième préoccupation est une affaire de mœurs. Il y en a qui prononcent mœurs, qui ont été observées au Congo, en Afrique. Est-ce qu'il y a une enquête de moralité qui est réalisée au niveau de la police dans le recrutement des agents qui vont intervenir dans ce pays? Parce que il y a des rapprochements qui se font entre la police et la population. Mais il paraît qu'il y a certains agents qui ont des comportements indélicats vis-à-vis de la population. Alors, comment est-ce que ces pays-là, ou bien comment l'ONU gère ces problèmes d'indélicatesse? Merci.
Je pense que c'est trois observations tout à fait justifiées, qu'on voit d'ailleurs dans la littérature sur les opérations de paix. Qui veut sauter?
Je viens sauter.
Merci. Alors sur votre première information, je ne sais pas d'où vous tirez ces informations sur l'idée que les policiers infiltrent les polices locales dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Je me sens pas la compétence de répondre à ça, très honnêtement, puisque dans les entrevues ou les recherches que j'ai pu lire sur les déploiements policiers dans les opérations de maintien de la paix, je ne suis pour l'instant pas tombé sur cet aspect-là. Peut-être mes collègues pourront vous éclairer sur cette question. La deuxième question que vous aviez sur le développement de la relation entre les polices internationales et la population, je vous dirais, elle se fait généralement très bien. Elle se fait généralement très bien, mais ça prend du temps, ça se construit doucement. Pourquoi ? Parce que dans la plupart des pays dans lesquels les policiers arrivent, les polices locales étaient considérées comme un instrument de répression et donc extrêmement craintes par la population. Et ça peut mener à des situations un peu étranges. Et Frédéric en a mentionné quelques-unes dans le livre, mais tout simplement d'une population qui dénonce pas les crimes, qui ne communique en rien les crimes ou les méfaits dont elle est victime. Et justement, dans ce que je mentionnais tout à l'heure, une grande partie, je dirais que c'est pas non plus tous les policiers internationaux hein, qui vont développer des relations comme ça, mais dans les rencontres que j'ai pu faire, on voit cette volonté, par un moyen ou un autre, d'essayer d'établir un contact. Alors ce contact ne se fait généralement pas par la dimension policière, mais se fait par la dimension humaine. L'organisation d'un tournoi de soccer, de football, par exemple, et puis c'est avant tout par ça que la confiance se déploie. Et sur le troisième point, qui les mœurs sexuelles. Alors là, effectivement, il y a des abus. Vous avez cité le cas de la République démocratique du Congo. Il y a des abus qui ont été reconnus. D'ailleurs, il y a un documentaire qui a été fait dont le nom m'échappe, mais par Raymond Provencher. Ouais.
Le déshonneur des casques bleus,
exactement, sur ces questions. Le problème, c'est que dans ces contextes-là, les Nations Unies n'ont pas le pouvoir de sanction, si ce n'est que de retirer le policier de ses contingents et de le renvoyer dans son pays. Mais c'est le pays qui détermine de la peine ou de la sanction. Et dans bien des pays, ces policiers bénéficient d'une impunité totale, ce qui n'est bien entendu pas le cas de la grande majorité des pays. Je ne sais pas si Benoît ou Antoine voulaient
rajouter quelque chose.
Non, ça me semble assez complet.
Eh bien.
Ça revient juste sur la question des clivages culturels qui existent au sein des contingents, parce que notamment dans le documentaire qu'a évoqué Samuel, il y avait justement toute cette question aussi du rapport entre les contingents, certains contingents qui étaient plus dénigrés que d'autres, etc., notamment par rapport à leur rapport aux communautés locales, etc. Donc ça reprend aussi certaines questions qui ont été évoquées précédemment. Mais effectivement, c'est une question importante.
Est-ce qu'il y a une autre intervention ou bien... C'est la clôture. Frédéric, est-ce que tu as quelque chose, une question?
Non, je pense qu'on pourra échanger, mais...
Très bien. Donc, je voudrais remercier nos quatre conférenciers pour cette causerie. Merci aux presses universitaires de l'Université de Montréal pour la publication de ce livre et merci à la librairie Olivieri pour nous avoir accueillis ici ce soir. Et bon cocktail à tous.
Et merci aussi à Francopol qui a permis à cet atelier initial de se dérouler parce que sans l'ouverture et la collaboration des services de police francophones québécois, français et autres, on n'aurait jamais pu avoir accès à toutes ces informations, à ce terrain et parler à ces praticiens. Donc on voudrait les remercier encore une fois.
Merci.
Merci. Achetez le livre. Deux pour un.